have a dream.
It's one small step for man.
Une Amérique qui est maintenant multiculturelle, multiforme.
One nation under God, indivisible, with liberty and justice for all.
Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous retrouver comme toutes les semaines dans l'Amérique et vous sur VOA Afrique. Nous émettons depuis Washington DC aux États-Unis. Au micro de présentation, John Linden, Sanoussi Diallo et Fred assure la production. Mise en onde de Souleymane Tarawale. Installez-vous confortablement et on se retrouve juste après. Vous êtes sur VOA Afrique, vous écoutez l'Amérique et vous. Cette semaine, le président élu des États-Unis, Donald Trump, a nommé dans son cabinet un troisième général à la retraite, John Kelly, ministre de la Sécurité intérieure. Avant lui, Donald Trump avait nommé un autre général à la retraite, Michael Flynn, comme son conseiller à la sécurité nationale, un poste influent sur le plan international et les questions de défense. Trump a aussi nommé le général à la retraite James Mattis comme secrétaire à la défense. Un autre général, David Petraeus, est toujours dans la course pour le poste de secrétaire d'État. Alors question, que pensez-vous de la nomination par Donald Trump des généraux dans son cabinet? Et de façon générale, que pensez-vous des nominations de son cabinet? Nous vous donnons la parole dans l'Amérique et vous faites-nous part de vos réactions sur Facebook ou en direct au 001-202-619-3140. Et pour nous accompagner dans cette émission ce soir, nous avons Brett Bruen, président de Global Situation Room. Brett, bonsoir. Brett, bonsoir.
Oui, bonsoir. Comment voilà. Allez-vous?
Je vais très bien. Merci, Brett, de rester avec nous. On va accueillir les autres invités. Comme invité, on a également le professeur Ahmad Mahamad Hassan depuis le Tchad. Professeur, bonsoir.
Bonsoir.
Merci pour votre disponibilité. L'ambassadeur Kenton Kate est également avec nous. Excellence, bonsoir.
Bonsoir.
Merci pour votre disponibilité. On va commencer tout de suite avec vous, mais dans le studio, j'ai également mon collègue Bagassi Koura. Bonsoir, Bagassi.
Oui, bonsoir John, bonsoir à tous.
Voilà, donc première question à nos invités. Je vais commencer par l'ambassadeur Kenton Kate. Déjà, quel est votre avis sur toutes ces nominations qui sont faites en ce moment par le président élu Donald Trump?
Bon, d'abord, il faut dire qu'il n'y a pas beaucoup de surpris. Il a nommé quelques des personnes qui partagent ses vues. Et il est clair qu'il veut avoir des hommes à côté qui partagent ses vues, surtout sur la politique domestique des États-Unis. Et la question qui se lève maintenant, c'est la question des affaires internationales.
Voilà, vous parlez d'affaires internationales. Nos auditeurs, pour ceux qui ne vous connaissent pas, vous avez été ambassadeur et donc vous connaissez un peu la diplomatie. Est-ce que vous pouvez nous dire dans quel pays vous avez travaillé, pour ceux qui ne vous connaissent pas?
Alors, j'ai passé la plupart de ma carrière dans les pays arabes. Le dernier était l'ambassadeur des États-Unis au Qatar.
Voilà. Merci beaucoup, Excellence. Brad, vous avez suivi également ces nominations. Déjà, quelle est l'analyse que vous faites des premiers noms qui sortent, qui feront partie de ce cabinet?
Oui, l'ambassadeur a raison. Il n'y a pas vraiment de surprise, mais ça ne signifie pas qu'il n'y a pas de de préoccupations, surtout au niveau de la diplomatie, parce que j'ai travaillé dans le Conseil de sécurité nationale et j'ai vécu des expériences dans lesquelles il y en a des perspectives très différentes entre les militaires et les diplomates. Et à mon avis, il faut avoir cette perspective civile dans les discussions, surtout au niveau de la Maison-Blanche et des ministres. Et à mon avis, il est essentiel que le président élu Trump va nommer quelqu'un avec cette expérience en dehors des questions militaires pour être secrétaire d'État.
Voilà. Professeur Ahmad, vous êtes au Tchad, un pays qui s'y connaît lorsqu'il faut parler d'armée, puisque votre président, il me semble, est un homme du milieu. Alors, qu'est-ce que ça vous fait, vous, de voir que Trump est en train de mettre autant de généraux dans son cabinet?
Je vous le disais il y a quelque temps que l'Amérique, la donne qui a dominé la campagne américaine et notamment les élections, c'est la donne sécuritaire. La donne sécuritaire sur laquelle M. Trump a longtemps tiré. Il a joué en faisant peur aux Américains qui considèrent aujourd'hui que l'adversaire principal de la sécurité nationale et internationale se trouve être le terrorisme. Alors, la question sécuritaire est au centre des préoccupations de tous les gouvernements dans le monde, bien entendu, y compris dans mon pays, où mon pays, effectivement, avec le président Idriss Déby, joue un grand rôle dans le cadre du maintien de la stabilité et de la sécurité, notamment la lutte contre Boko Haram et les djihadistes au Mali. Mais également, nous faisons face aujourd'hui à l'État islamique qui annonce pas en Libye où il n'y a pas d'État central, où il n'y a pas du tout d'État depuis la chute de Gaddafi. Alors, M. Trump confirme déjà ses promesses en matière de fermeté, en matière de fermeté de la puissance américaine. L'Amérique est la première puissance mondiale militaire, économique et politique, mais M. Trump a toujours joué sur la question sécuritaire américaine en faisant un repli sur l'Amérique elle-même sur des questions sécuritaires. En nommant des généraux ayant une très grande expérience et puis surtout des gens à la retraite, il rappelle la connaissance du contexte sécuritaire mondial et notamment dans le sous-continent pour pouvoir dire que l'Amérique joue à la fermeté, l'Amérique joue à la promesse et M. Trump joue en ce qui concerne la sécurité nationale. N'oubliez pas que son discours a été joué toujours, a joué sur la fermeté, sur la sécurité, sur... Il a même prétendu construire un mur entre les États-Unis et le Mexique, voilà. En l'abandonnant plus tard, en essayant de rendre un peu plus mou son discours après son investiture.
Voilà, nous parlerons.
Son élection, je veux dire. Mais c'est la question sécuritaire qui demeure et il est dans la droite ligne de ce qu'il avait déjà.
Voilà, nous parlerons de cela tout à l'heure. Bagassi Koura, vous êtes originaire du Burkina Faso. Et il me semble que ces derniers jours, il y a eu une loi où tout au moins on parlait de l'armée qui ne peut plus intervenir dans le gouvernement.
Oui, je crois que c'est un peu le contraire. Hein. Vous savez que après la chute de Blaise Compaoré en 2014, la transition, le Parlement de la transition a voté une loi interdisant aux militaires d'occuper des hautes fonctions au niveau de l'État, hautes fonctions, c'est-à-dire des postes d'ambassadeur, des postes de ministre et autres. Et donc, c'est cette loi qui a été retournée il y a quelques semaines. Hein. La nouvelle Assemblée a modifié cette loi permettant donc au gouvernement de nommer les militaires à des hautes fonctions. Je pense que peut-être que le gouvernement s'est dit qu'il était en manque de personnalité, de ressources humaines et que c'était quand même une grosse perte de laisser des gens expérimentés au sein de l'armée ne pas occuper des postes importants. Moi, ce que je veux dire, moi, j'ai une position personnelle en la matière. Je pense que c'est aussi la position que certaines personnes ou des positions de principe qui ont toujours été défendues, c'est que l'armée doit être commandée par des civils. Ça a été la règle ici aux États-Unis. C'est le président donne des ordres aux généraux qui vont exécuter ces missions et viennent rendre compte. Le risque que l'armée se retrouve à égalité avec les autres civils, lorsque le débat prend une certaine forme, l'armée prend toujours le dessus. Et donc, il y a toujours un risque de coup d'État. Et on l'a vu, peut-être, d'autres, c'est discutable, hein, mais je pense que c'est ce qui a envoyé toute cette tension au niveau de la transition au Burkina Faso. Lorsqu'on avait un premier ministre militaire et il y avait ses camarades qui n'étaient pas dans le gouvernement et ça se tiraillait, c'était entre militaires et les civils étaient silencieux parce que ça les dépassait. Lorsqu'il y a des tiraillements entre militaires, les civils sont piétinés. C'est comme des éléphants se battaient et vous vous cherchez. C'est pourquoi les gens ont mis des garde-fous, que ce soit ici aux États-Unis ou partout dans le monde, que les militaires soient soumis à la domination des civils.
Alors, ambassadeur Kenton, vous, dans nos échanges précédents, vous me disiez les États-Unis ont eu un président général. On a connu d'autres généraux dans des hautes fonctions. Et maintenant, pourquoi est-ce que, au niveau de la sécurité intérieure, par exemple, John Kelly a été nommé? Est-ce qu'il y a une menace? Est-ce qu'il y a un danger imminent ou pas?
Non, je crois pas. Pour le moment, je crois pas. En fait, l'histoire des États-Unis est pleine d'officiers, de généraux, d'admiraux qui ont pris des postes hautes dans le gouvernement. Mais le principe du contrôle de civil sous le militaire et sous l'armée est très profond aux États-Unis, très profond. Et le système, quand on parle des membres du cabinet, alors ça c'est tous les membres du cabinet doivent être confirmés par le Sénat. Mais par contre, le conseiller principal pour la sécurité internationale, le conseiller qui a son bureau à côté de celui du président,
Michael Flynn,
n'est pas confirmé par le Sénat. Et en ce cas, le cas de général Flynn, qui a été nommé par le président élu, quelques-uns de ces propos sont, pour le moins de qu'on puisse dire, inquiétants.
Alors, justement, Brad, est-ce que tous ces généraux, est-ce que la nomination de tous ces généraux annonce quelque chose que nous ne savons pas? Lorsqu'il va se déclarer demain ou pas une guerre, est-ce que c'est un atout?
Oui, je suis tout à fait d'accord avec l'ambassadeur. Je crois qu'il y en a des déclarations, il y en a des informations que le général Flynn, qui va être le conseiller du président Trump, qui sont très préoccupants. Et à mon avis, il faut avoir dans ces conversations quelqu'un qui pense en dehors du contexte militaire. Parce que si la seule expérience que existe dans la Maison Blanche et dans son cabinet, c'est d'expérience militaire, on ne va pas en penser des autres options. Et surtout, avec l'état du monde aujourd'hui, il faut avoir les considérations, parce qu'il n'y a pas de solution militaire aux plupart des problèmes auxquels il faut faire face.
Vous restez avec nous. On va prendre un auditeur au bout de la ligne. Bakary Keïta, bonsoir.
Bakary, bonsoir à vos invités.
Alors, votre réaction, Bakary?
Bon, à mon avis, c'est des nominations quand même salvatrices. Et je vois quand même leur nomination sous deux angles. Dans un premier temps, ça veut dire que les militaires, leur rôle n'est pas seulement quand même dans les champs de bataille. Ils sont bien quand même dans l'administration pour donner vraiment des sages conseils. Maintenant, ma deuxième analyse, c'est quoi? Des généraux, c'est des personnages quand même chevronnés. Donc, ils réfléchissent mûrement. Donc, ils peuvent aider vraiment Trump vraiment à mettre l'Amérique sur l'air. Si je prends par exemple l'exemple sur le Mali, par exemple, il y a les gouverneurs, par exemple, ça, c'est les colonels, les généraux et aussi les ambassadeurs. Donc, ça montre que les généraux ont leur place quand même dans la gestion vraiment de la vie politique.
Alors, professeur Ahmad, Brett Bruyen disait tout à l'heure que ces généraux-là peuvent, lorsqu'il y a un problème demain, peuvent ne pas avoir d'autres options que celles militaires. Est-ce que vous partagez ce point de vue?
Oui, tout à fait. Les officiers ne sont pas formés seulement comme des bêtes pour pouvoir arrêter seulement les stratégies militaires ou de guerre. Et c'est aussi des cadres de conception ayant des connaissances multidisciplinaires et surtout ceux qui ont acquis une certaine expérience. Même si la guerre est leur métier principal, l'autre élément, c'est qu'ils ont des connaissances dans le domaine diplomatique, dans le domaine des renseignements, dans le domaine du développement, dans le domaine de l'intervention humanitaire et autres. Nul ne peut contester leur expérience par rapport à d'autres sujets qui concernent leur nation ou les relations diplomatiques internationales. Les militaires ont toujours joué beaucoup de rôles, soit aux États-Unis, en France ou ailleurs, où il y a eu les militaires qui ont sauvé les nations, qui ont développé les nations. Le problème n'est pas à ces niveaux. Mais quand c'est dans un contexte précis, ça répond à une question précise. Aujourd'hui, on ne les appelle pas seulement parce qu'ils sont des militaires ayant une certaine expérience, c'est d'abord des citoyens américains, mais c'est parce que M. Donald Trump et le contexte international fait que le terrorisme est aujourd'hui l'élément principal. La sécurité est l'élément principal sur lequel M. Trump a plus ou moins convaincu même les investis aux États-Unis de voter pour M. Trump avec sa fermeté, avec la langue de fermeté. L'Amérique s'est recroquevillée sur elle-même. Et cette situation-là, pour nous qui regardons de l'extérieur, pour nous qui sommes ressortissants des États comme le Tchad, qui ont une grande expérience dans les armées africaines, avec la Libye, avec d'autres pays que nous avons connus, un pays qui a connu plusieurs troubles, notamment dans le cadre de l'administration du territoire ou de la fonction publique, ou même dans le ministère civil. Quand on fait appel à des militaires, ça annonce un problème d'un contexte précis, même si ce contexte est passager.
Alors,
cela ne veut pas dire qu'ils sont de mauvais administrateurs.
Alors, ambassadeur Quinton, comment est-ce que vous réagissez au premier contact ou alors aux premières réactions de Donald Trump face aux pays comme la Russie ou la Chine, avec notamment ce coup de fil avec la présidente taïwanaise? Comment est-ce que vous voyez l'avenir des relations internationales sous les Trump?
Bon, d'abord, il faut dire qu'il rompt avec le passé. Il est clair qu'il va... Il va suivre ses propres idées dans le domaine international, mais il faut quand même attendre un peu, voir qui va être nommé secrétaire d'État. Ça, c'est, je crois, déterminant, parce que il est clair que M. Trump n'est pas, comme quelqu'un a dit, chevronné dans les affaires internationales. La communication téléphonique qui, pour lui, au président de Taïwan, pour lui, était pas une chose déterminante. Mais évidemment, ça vraiment a eu déjà un effet énorme. Et il faut quelqu'un à côté, il faut quelqu'un dans le rôle de secrétaire d'État qui a son confiance et qui est chevronné, qui a des expériences importantes pour conseiller. Et ça, pour le moment, c'est une vide très importante.
Voilà. Il faut dire qu'on attend toujours la nomination donc du secrétaire d'État et que le général David Petraeus est toujours dans la course. On va prendre un autre auditeur, Mohamed Fadigo. Bonsoir.
Bonsoir.
Oui, vous nous appelez depuis le Sénégal. Votre réaction?
Oui. Allô?
Oui, allez-y.
Oui, monsieur. Je vous entends mal.
D'accord. Quelle est votre réaction sur le sujet d'aujourd'hui?
En fait, Donald Trump.
Oui, tout à fait.
Oui. À mon avis, c'est que je dirais que Donald Trump, actuellement,
il est en train de recruter des généraux pour sécuriser son avant et son derrière. Cela veut dire que sécuriser d'abord les États-Unis, ensuite pour mener la guerre au reste du monde.
D'accord. Voilà. Alors, d'accord. Mais merci pour votre avis, Bagassi Koura. Est-ce que au niveau intérieur, comment est-ce que, puisque vous vivez ici aux États-Unis, comment est-ce que ces nominations sont accueillies sur place?
Ben, en fait, si on en parle aujourd'hui, c'est pas parce qu'il veut nommer un militaire. C'est peut-être le nombre qui a envoyé ce débat-là. S'il avait proposé peut-être Michael Flint seulement ou Petraeus seulement, un seul militaire, le débat ne se serait pas posé. C'est le nombre et on ne sait pas combien d'autres militaires il va proposer d'ici là. Et l'inquiétude ici, c'est que est-ce qu'il va avoir cette ligne, démarcation claire entre hommes politiques et militaires, les militaires qui doivent toujours, qu'on a toujours vu avec tout le respect, toute la crédibilité, qui sont au-dessus de la mêlée. Est-ce que on va voir cette ligne-là? Est-ce qu'il n'y a pas un risque que les militaires deviennent des hommes politiques et peut-être ne réussissent pas comme ils ont réussi dans l'armée? Donc il y a tous ces risques-là et aussi, comme je l'ai dit, les civils qui doivent commander les militaires, si on a 5-6 ministres qui sont des généraux, comment est-ce que ce rapport-là va se définir? Et donc c'est un peu des questions que les gens se posent et on se demande s'il ne faudrait pas mettre fin à cela et peut-être réduire le nombre de militaires au strict minimum.
Alors, Fred Bruyen, on attend toujours David Petraeus ou quelqu'un d'autre pourra être choisi comme secrétaire d'État. À votre avis, à qui est-ce que ce poste-là devrait revenir, un civil ou un militaire?
Bon, à mon avis, le meilleur choix pour le poste de secrétaire d'État va être quelqu'un qui pourrait commander le respect, bien sûr, des leaders internationaux. Je crois que notre expérience avec John Kerry, avec Hillary Clinton, était que deux ex-candidats pour la présidence pourraient parler au même niveau que les leaders mondiaux. Et il est nécessaire ces jours-ci d'avoir quelqu'un qui pourrait non seulement parler des sujets militaires, sécurité, mais aussi économique, aussi politique, parce que sinon, on aura une situation dans laquelle les États-Unis manquent d'expérience, manquent de connaissances et manquent de statut en termes des autres leaders dans le monde.
Alors, à votre avis, est-ce que vous avez un nom, quelqu'un qui pourrait bien remplir ce rôle, vous?
En fait, j'ai vu le ex-gouverneur Mitt Romney, qui était aussi candidat républicain contre le président Obama, comme quelqu'un qui pourrait porter ce respect et à certaines connaissances. Même s'il n'a pas travaillé nécessairement dans la diplomatie, je crois que il a géré les Olympiques ici aux États-Unis et qu'il a travaillé dans les affaires économiques partout dans le monde. Et à mon avis, c'est quelqu'un qui pourrait jouer le rôle de secrétaire d'État comme il faut faire.
Alors, ambassadeur Kenton, à votre avis, qui voyez-vous comme secrétaire d'État? Un civil ou un militaire?
Il y a tous les noms qui sont en jeu. Mais moi, j'ai beaucoup de respect pour l'ex-gouverneur Romney. Et je ne suis pas à mesure de prononcer sur le général Petraeus, mais j'ai beaucoup d'amis qui ont travaillé avec lui et qui ont beaucoup de respect pour lui par son attitude de base, c'est-à-dire le contrôle des civils sur les militaires, mais aussi qui a une réputation de d'avoir des bonnes relations avec les leaders étrangers avec qui il a travaillé dans ses rôles précédents. Mais de toute façon, il faut savoir qu'il y a beaucoup de c'est pas nouveau, il y a beaucoup de généraux et d'admirals qui ont travaillé comme secrétaire d'État, qui ont servi
Colin Powell par exemple
George Marshall, Alexander Haig, Colin Powell, et pour les conseillers de sécurité nationale, il y avait plusieurs, y compris Powell, Scowcroft, Poindexter, des hommes avec beaucoup de réputation.
Voilà.
Donc il faut attendre un petit peu.
Voilà. Professeur Ahmad, en quelques secondes, vous voyez un civil ou un militaire comme secrétaire d'État?
Bien venir le général Petraoust. Moi, je ne vois pas quelqu'un d'autre qui puisse le faire.
Voilà.
C'est pas par une question d'incapacité, mais c'est parce que j'ai beaucoup de respect pour M. Mitterrand, le gouverneur. Et je connais d'autres également au niveau des États-Unis qui ont toutes les qualités et qui sont imprégnés dans les relations diplomatiques internationales. Mais le contexte, ça m'étonnerait qu'il soit quelqu'un d'autre plus que le
voilà. Merci.
Qui a déjà joué un grand rôle.
Merci, professeur Ahmad. Brad, en 10 secondes, le mot de la fin.
Je crois que nous entrons dans une nouvelle période dans laquelle personne ne pourrait savoir exactement ce qui vient.
Voilà. Ambassadeur Kenton, le mot de la fin pour vous?
Comme beaucoup de gens ici, j'attends la nomination du secrétaire d'État. Je crois que ça peut être déterminant.
Voilà. Bagassi Koura, en quelques secondes, le mot de la fin pour vous?
Oui, comme les autres l'ont dit, hein, on attend de voir ce qui va se passer pour être mieux situé.
Voilà. Nous sommes arrivés au terme de cette émission L'Amérique et vous, mise en onde par Souleymane Tarawale. Sanoussi Diallo et Fred assuraient la production. John Lyndon était à la présentation. Merci d'avoir suivi. Restez à l'écoute des programmes de VO Afrique. Bonsoir.